Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce mercredi 9 janvier 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Les États-Unis vont d'erreur de calcul en erreur face à l'Iran et l'assassinat du général Soleimani en a été l'une des plus graves. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'assassinat du général Soleimani n'a fait que renforcer le mouvement antiterroriste qu'il a lancé, déclaration ce matin du leader de la révolution islamique. L'Iran a la volonté d'arriver à un bon accord, insiste Téhéran. Et puis Téhéran a mis à jour la liste des sanctions contre les entités américaines. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique d'Iran a affirmé que l'assassinat par les États-Unis du lieutenant général Qassem Soleimani n'avait fait que renforcer la campagne que le commandant antiterroriste avait lancée. Il s'imaginait qu'en assassinant le général Soleimani, il pourrait étouffer les grands mouvements dont était le représentant et le symbole. Mais l'on voit que ce mouvement s'est développé et cette année, au deuxième anniversaire du martyre du général Soleimani, les ennemis ne pouvaient pas calculer ce mouvement grandiose, cette passion fervente et ces émotions sincères du public. À vrai dire, le système de calcul des ennemis est défectueux et ils n'arrivent pas à comprendre les vérités sur la République islamique d'Iran. Le leader a affirmé ensuite que les erreurs de calcul de Washington avaient conduit le gouvernement américain à prendre de mauvaises décisions qui, à leur tour, ont conduit à son échec. Dans l'optique de l'ennemi, le martyr du général Soleimani était censé être une menace pour nous. Mais la nation musulmane iranienne a transformé cette menace en opportunité. Non seulement le mouvement de la résistance ne s'est pas éteint, mais il s'est également renforcé, a ajouté le leader. Ailleurs dans ses remarques, l'ayatollah Khamenei a noté que la profonde animosité des États-Unis envers la République islamique découlait de la vision révolutionnaire et religieuse du peuple iranien vis-à-vis des problèmes mondiaux. Selon le leader, les tyrans se sont toujours opposés aux mouvements et aux établissements à fondement religieux. L'ayatollah Khamenei a tenu ses propos lors d'une réunion avec les habitants de la ville sainte de Rome via vidéoconférence ce dimanche à l'occasion du jour anniversaire du soulèvement du 9 janvier 1978 du peuple de Rome contre le régime despotique Pahlavi. Téhéran a mis à jour la liste des individus américains mis sur liste noire pour leur implication dans l'assassinat du plus haut général iranien Qassem Soleimani et ses compagnons. Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé avoir ajouté 51 responsables américains à la liste. Il est à rappeler que les États-Unis, en commettant cet acte terroriste impitoyable, ont violé de manière flagrante leurs obligations juridiques internationales en matière de lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, en particulier l'obligation de s'abstenir, d'organiser, de participer à des actes terroristes et l'obligation de respecter, protéger et réaliser les droits de l'homme qui constituent des actes internationalement illicites, engageant la responsabilité internationale des États-Unis. Le ministère a juré que l'acte terroriste odieux ne fera que renforcer la détermination de l'Iran à suivre la voie du général Soleimani dans la lutte contre le terrorisme. Le 3 janvier 2020, les États-Unis ont assassiné Soleimani et ses compagnons, dont le haut commandant irakien Abu Mahdi al-Mohandis, lors d'une frappe de drone près de l'aéroport de Bagdad. Autre thème, l'armée syrienne intercepte un convoi militaire américain dans la campagne de Hasaka dans le nord-est du pays, le forçant à battre en retraite. Selon les médias syriens, un convoi de 4 véhicules blindés a été chassé d'un village au nord de la ville de Tal Tamr. L'armée américaine a stationné des troupes et du matériel dans l'est et le nord-est de la Syrie. Le Pentagone prétend que le déploiement de ses forces militaires vise à empêcher que les champs pétrolifères de la région ne tombent entre les mains des terroristes daéchistes. Pour Damas, qui ne cesse de dénoncer cette présence, le déploiement illégal des Américains viole la souveraineté de la Syrie et vise à piller ses ressources. Les sentiments anti-américains se généralisent dans la région. Des attaques à la roquette ne cessent de viser en Irak et en Syrie voisine des bases abritant des troupes de la coalition internationale. Le Kazakhstan affirme que les soldats du maintien de la paix dirigés par la Russie protègent désormais plusieurs de ses installations stratégiques, alors que le pays lutte pour contenir les violences la plus meurtrière et les agissements terroristes sans précédent de son histoire, alimentés depuis l'extérieur, selon Almaty. Une organisation de sécurité régionale dirigée par la Russie a dépêché des troupes dans le pays pour établir l'ordre à la demande du président kazakh. Le bureau présidentiel indique que 5 800 personnes ont été arrêtées, dont beaucoup de citoyens étrangers. L'ancien premier ministre et l'ancien chef du renseignement sont également en détention pour trahison et l'état d'urgence a été décrété. La crise et les violences ont fait des dizaines de morts, dont de policiers, au cours de la semaine dernière. Le gouvernement affirme que la situation est sous contrôle et un calme relatif est revenu dans le pays, bien que les opérations antiterroristes se poursuivent. La Russie a exclu dimanche toute concession lors de pourparlers à fort enjeu avec les États-Unis à Genève sur l'Ukraine et la sécurité en Europe, soi-disant en outre déçue par les signaux envoyés par Washington. Nous n'accepterons aucune concession, cela est complètement exclu, a déclaré aux agences de presse russes le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov, qui doit prendre part aux négociations. Nous sommes déçus des signaux venant ces derniers jours de Washington, mais aussi de Bruxelles, a-t-il ajouté. Par la suite, M. Ryabkov a indiqué qu'en l'absence de progrès lors de la première réunion lundi, la Russie pourrait décider de ne pas poursuivre les négociations. Des représentants de la Russie et des États-Unis se retrouveront dimanche soir à Genève avant une réunion cruciale le lendemain sur l'Ukraine et la sécurité en Europe dans un contexte de vives tensions. La Russie est accusée par les Occidentaux d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l'Ukraine voisine en prévision d'une éventuelle invasion, ce que Moscou nie catégoriquement. Enfin, l'Iran a signalé 700 nouveaux cas du Covid-19, ce qui présente le plus faible nombre de cas quotidiens dans le pays en près de 2 ans. Selon les derniers chiffres liés au virus mortel, quelques 6 millions de personnes ont contracté le virus. 24 autres sont mortes au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès dus au Covid-19 à près de 131 000. L'Iran a établi un nouveau record vendredi, ne faisant état que 19 décès, le bilan quotidien le plus bas également en 2 ans. Les chiffres liés à la pandémie ont diminué en Iran grâce à la campagne de vaccination de masse du pays. Plus de 122 millions de doses ont été administrées, plus de 60 millions de personnes ont reçu une première injection et quelques 52 millions d'autres ont reçu une seconde dose, tandis que près de 10 millions de personnes ont reçu une dose de rappel. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Les États-Unis vont d'erreur de calcul en erreur face à l'Iran et l'assassinat du général Soleimani en a été l'une des plus graves. Le leader prononce un discours à l'occasion de la date anniversaire du soulèvement des habitants de la ville sainte iranienne de Qom ce dimanche. Le leader de la révolution islamique a tenu un discours par vidéoconférence à l'occasion de la date anniversaire du soulèvement populaire dans la ville sainte de Rome en janvier 1978. Dans un discours prononcé à l'occasion de la date anniversaire du soulèvement des habitants de la ville iranienne Rome, qui abrite la plus grande école théologique chiite après Najaf, le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, a évoqué la profonde foi et les sentiments religieux des Iraniens qui, tout au long de l'histoire de cette nation, ont guidé leurs pas contre la tyrannie et l'oppression et l'agression étrangère, un sentiment dont les ennemis de l'Iran ne tiennent pas compte, ce qui les pousse à commettre continuellement des erreurs de perception et de calcul à l'encontre des Iraniens ayant payé le prix lourd. C'est cet attachement à la foi qui fait obstacle à la globalisation de l'État-nation iranienne. Le 9 janvier 1978, des milliers d'habitants de Rome sont descendus dans la rue, ont fermé leur commerce, ont fait sit-in en signe de protestation contre un article paru dans les journaux et qui offensait le défunt fondateur de la République islamique, Imam Khomeini. La plupart des événements qui ont marqué l'histoire de ces 150 dernières années dans notre nation font de cette foi et de ce sentiment d'appartenance à une religion. Ce sont des événements où, pour la plupart, des personnalités religieuses occupent la place centrale. En 1978, aucune autre personnalité que l'imam Khomeini n'avait la capacité de mobiliser autant les foules et de les placer vis-à-vis de la tyrannie du régime monarchique. D'où cette aversion, cette hostilité que les grandes puissances nourrissent à l'égard de notre religion, de notre dignité religieuse, de l'islam politique, de la jurisprudence religieuse, d'un religieux qui fasse aussi de la politique. Car c'est là un concept qui contredit le libéralisme, la globalisation, le colonialisme, l'impérialisme. À l'époque, c'est-à-dire en 1978, l'ex-président U.S. Carter avait fait un discours qualifiant l'Iran monarchique d'îlot de stabilité. Le régime monarchique a cru à cette fable de stabilité et a cherché à réprimer à travers une campagne contre l'imam Khomeini ce profond sentiment religieux qui anime les Iraniens de tout temps et de toute époque. Mais le scénario concocté par les Américains, exécuté par le régime de Shah, s'est soldé par un échec le jour où des milliers d'Iraniens sont descendus dans la rue pour soutenir l'imam Khomeini. Ce fut un échec total pour l'axe US-Shah. Or, ces erreurs de calcul sont encore de nos jours commises par les Américains. Un exemple de cette mauvaise perception de l'Iran, de son histoire et de sa nation est illustré par le criminel assassinat du général Soleimani. Les États-Unis croyaient pouvoir éteindre la flamme de la révolution dans notre pays en l'éliminant, mais c'est tout inverse qui s'est produit. Cette année, au second anniversaire de ce crime, le mouvement commémoratif a été encore plus grand qu'avant. Autant d'amour et abnégation et de respect pour le général, cela vient d'où? c'est la foi des Iraniens qui se manifeste. Ils ont le ouvertement. Les services secrets du camp d'en face se sont laissés encore une fois surprendre. Les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre les Iraniens et évaluer à sa juste valeur cette nation, ce qui fait qu'ils prennent toujours de mauvaises décisions et ils échouent et vont de déception en déception. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a déclaré que les ennemis suggéraient de créer une menace en faisant tomber en martyr une grande figure comme Soleimani, mais que cette menace avait été transformée en opportunité par le zèle de la nation musulmane d'Iran. Négocier, parler avec l'ennemi est une autre affaire, mais nous n'avons pas cédé et ne céderons pas à la coercition de l'ennemi. Ils veulent affaiblir la nation et minimiser ses principes saillants. Cela fait partie de la guerre douce, vaste de l'ennemi. Il faut tenir tête devant cette désensibilisation. Ce sont des ennemis dont la spécialité est de créer la discorde. Et ils savent bien comment le faire. Ils l'ont fait partout où ils ont pu. Nous ne devons pas laisser les différences entre les chiites et les sunnites ne s'aggraver dans le pays, a fait remarquer l'Ayatollah Khamenei. Il a précisé, depuis quelques siècles, les chiites et les sunnites en Iran vivent ensemble et n'ont eu aucun problème les uns avec les autres. De telles différences ne devraient pas se produire. Quelqu'un peut dire quelque chose de mal et certains se tiennent devant lui, mais il ne faut pas se focaliser sur de tels sujets. Par contre, la cohésion doit être maintenue. Dans les sociétés islamiques où vivent les sunnites, on entend et voit parfois leur soutien sans merci à la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran est la manifestation de l'islam et du règne de l'Oumma islamique à travers le monde. À l'occasion de l'anniversaire du martyr Soleimani, d'immenses manifestations ont eu lieu dans les pays sunnites du monde. Et voilà pourquoi il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, on a le droit d'ignorer la question de la cohésion entre chiites et sunnites à l'intérieur du pays, a ponctué le leader de la révolution islamique.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 8 janvier 2022. Depuis une semaine, le Kazakhstan, le plus grand pays d'Asie centrale, est confronté à des émeutes. Différentes villes de ce pays, et notamment sa capitale économique, Almaty, en effet, ont été le théâtre des affrontements violents entre les forces de sécurité et des émeutiers. Des dizaines de personnes ont été tuées, des milliers d'autres ont été arrêtées. Une force régionale de maintien de sécurité dirigée par la Russie a été envoyée pour aider le gouvernement kazakh à rétablir le calme et la sécurité. La République islamique d'Iran a appelé en effet le gouvernement et les manifestants, en effet, à engager le dialogue pour résoudre la crise conformément aux intérêts nationaux de ce pays. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a également mis en garde contre les tentatives étrangères d'exploiter, en effet, les troubles et de s'ingérer dans les affaires intérieures du Kazakhstan. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces émeutes, en effet, au Kazakhstan, ses principaux enjeux et, bien entendu, les réactions des différentes parties et les répercussions, en effet, de ces émeutes et de ces troubles dans la région d'Asie centrale. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Moscou Fabrice Beur, expert pour l'ONG Aude. Monsieur Beur, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur Presse TV.
Alors, comme vous le savez très bien, Monsieur Beur, depuis une semaine, le Kazakhstan est le théâtre des émeutes sans précédent. De violents affrontements ont eu lieu entre les forces de sécurité et des émeutiers. Alors, deux questions pour commencer, Monsieur Beur. Est-ce que là, il s'agit des émeutes réellement et spontanées? Et puis, à qui profiteraient ces troupes-là?
Il s'agit d'une opération de déstabilisation de l'Asie centrale, bon, c'est évident. Il faut voir la position géographique du Kazakhstan, qui est sur le flanc sud de la Russie. Rappelons qu'il y a à peu près presque 7000 km de frontières communes, donc c'est une évidence que c'est un peu, on va dire, le ventre mou de la Russie. Mettons-nous en place. Hein. Après la perte de l'Afghanistan, les Américains ne sont pas partis sans stratégie et ils n'ont pas fait une croix sur l'Asie centrale. Et ce qu'ils peuvent contrôler, ils y mettent le chaos, hein, c'est leur stratégie habituelle. Mais ça peut pas se déclencher du jour au lendemain. On voit bien que c'est un plan préparé de longue date. Il y a le financement habituel de la société civile, comme on dit, sur les valeurs américaines, puisque maintenant c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent plus valeurs démocratiques, ils disent valeurs américaines. Et la Turquie, qui là encore a joué le rôle de cheval de Troie du NATO-Land, puisque depuis plusieurs années, elle est assez présente dans beaucoup de domaines, et pas seulement économique, dans la région. Et la stratégie donc est claire, elle suit le classique d'une révolution de couleurs avec une variante proche-orientale, c'est-à-dire l'implication de groupes terroristes, voire même de groupes djihadistes. Alors les manifestations qui sont dites pacifiques, qui dégénèrent rapidement en affrontement avec la police et puis après en affrontement armé, voilà la réalité aujourd'hui au Kazakhstan. Alors attention, je ne dis pas que les revendications populaires premières n'avaient pas lieu d'être et n'ont pas de raison. D'ailleurs, le gouvernement même lui-même l'indique qu'il est pro-dialogue, mais après le rétablissement de l'ordre. Mais ces revendications ont été manipulées pour des objectifs tout à fait évidemment différents. Et aujourd'hui, on est bien en face à des groupes terroristes dont l'objectif, c'est le renversement de l'État et pas soutenir les revendications sociales et économiques des manifestants kazakhs. Alors maintenant, cela étant dit, la crise, et je vais terminer là-dessus, la crise est à plusieurs variables. Parce que dans celle-ci, il y a peut-être également, semble-t-il, des affrontements entre différents clans du pouvoir. Et on peut imaginer une lutte d'influence à l'intérieur du pays et que cette lutte avec les plusieurs pôles à l'intérieur du Kazakhstan a été instrumentalisée depuis l'extérieur pour mener le coup d'État, les tentatives de coup d'État que nous avons vues et qui est anti-russe en tout cas, parce qu'il faut se rappeler que depuis que le Kazakhstan se rapproche, c'est après, approximativement depuis 2014 d'ailleurs, se rapproche de l'Occident, il y avait une politique des petits pas à l'intérieur anti-russe à l'intérieur du Kazakhstan qui a été en cours, puisque comme dérivatif des problèmes économiques et sociaux, évidemment, on pointait toujours du doigt de la Russie. Et là, ma conclusion pour votre question, oui, nous sommes bien en face à une politique de déstabilisation, une tentative de révolution de couleur instrumentalisée par l'extérieur avec un travail de sape américain et du cheval de Troie turc qui démontre une fois de plus qu'il est toujours, qui poursuit toujours une politique anti-russe de par le monde. Mais on voit aussi pour le Kazakhstan qu'une politique anti-russe dans les pays de l'ancienne Union soviétique aboutit toujours à une politique de chaos, une politique de destruction et une politique de misère. Il suffit de voir ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Ukraine. Et c'est la tentative et la volonté, en tout cas, du NATO-Land de reproduire la même chose au cœur du Kazakhstan, au cœur de l'Asie centrale du Kazakhstan, puisque, en même temps, c'est sur les nouvelles routes de la soie. Et la Chine étant également évidemment un adversaire des États-Unis, ils essayent de faire une pierre deux coups.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Beur. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Très bien. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Michel, Monsieur Beur l'a rappelé, il s'agit d'un plan préparé de longue date qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de déstabilisation de l'Asie centrale. Alors, pour vous, quelle est la réalité, en effet, des récentes évolutions depuis une semaine? Et puis, à quels changements géostratégiques on assiste après les défaites successives des États-Unis et de l'OTAN en Irak, en Syrie, en général au Moyen-Orient?
c'est la contre-offensive de l'impérialisme américain et c'est lié à la géopolitique internationale. C'est la même semaine où l'armée russe est déployée aux frontières de l'Ukraine pour faire face à la menace de l'OTAN et où les Russes se déploient au Mali qu'intervient les éléments du Kazakhstan. C'est une révolution de couleurs transformée en agression terroriste et une fois de plus avec la vieille complicité du vieux complice des États-Unis qu'est la Turquie d'Erdogan puisqu'ils ont amené des djihadistes venus d'Idlib qui ont participé à l'assaut des forces de police. Il faut constater quelque chose, c'est que depuis une dizaine d'années, les révolutions de couleurs made in USA ne sont plus des éléments pacifiques menés par des foules pacifiques et civiles, comme on le raconte sur Wikipédia, l'encyclopédie des barbouzes de l'OTAN, mais on transforme immédiatement les manifestations pacifiques qui sont présentées comme telles dans les médias de l'OTAN, on les transforme en actes d'agression terroriste. En février 2011, à Benghazi, immédiatement, les manifestations de civils avaient été transformées dans des attaques terroristes avec des staffers venus de Pologne, on le sait aujourd'hui, et où des policiers avaient été pendus. C'était la même chose au Kazakhstan. On a passé à tabac des policiers, on les a déplacés nus dans les rues et deux d'entre eux ont même été décapités par les terroristes venus de Syrie. Voilà le vrai visage des États-Unis. Il s'agissait en plus d'un test, à mon avis. Il y a une série de négociations entre la Russie et l'OTAN qui vont se dérouler du 10 au 13 janvier. Manifestation à Vienne avec les États-Unis, manifestation avec l'OTAN et manifestation avec l'OSCE. Poutine a dit à l'avance la dernière semaine de 2021, que la Russie émettait, plaçait des lignes rouges qu'il s'agissait de ne pas dépasser. C'est une façon, je pense, les événements du Kazakhstan de tester la volonté de la Russie. La Russie a répondu avec une magnifique démonstration de force. En 48 heures, les forces de l'OTSC sont intervenues au Kazakhstan. Et on se rappelle qu'elles étaient prêtes puisque en 2019 et 2020, de grandes manœuvres avaient eu lieu avec les différents pays de l'OTSC, dont le Kazakhstan, pour prévenir précisément la tentative d'une révolution de couleur pour renverser l'ordre politique et institutionnel. Aujourd'hui, la Russie a démontré qu'elle était une armée puissante, capable de se masser. Il y a plus de 100 000 hommes actuellement aux frontières de l'Ukraine, capables de se déployer au Mali malgré toutes les campagnes occidentales contre le soi-disant groupe Wagner et en même temps de déployer en 48 heures des troupes au Kazakhstan. C'est donc la chute de l'OTAN qui continue.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous, M. Michel. Monsieur Beurre, Monsieur Michel a évoqué le contexte ukrainien. Pour de nombreux analystes, l'Occident, au lieu de, en effet, d'engager une confrontation directe avec la Russie sur l'Ukraine, a préféré de changer de terrain de jeu afin d'exercer une pression médiatique et politique sur la Russie. Cette fois, en effet, au Kazakhstan. D'abord, quelles seront les répercussions, en effet, de cette nouvelle manœuvre occidentale en Asie centrale et puis, et surtout, quelle sera la réaction à long terme de la Russie?
Les Américains, comme toujours, bien qu'ils aient des plans à long terme, la preuve, ce genre de révolution de couleur, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça se prépare sur plusieurs années. Alors, rappelez-vous la déclaration du Nuland sur l'Ukraine qui avait dit que ça faisait plusieurs années qu'ils avaient investi 5 milliards de dollars. Ça a été dit publiquement, donc voilà quelle est leur politique. Mais ils ont un défaut toujours, c'est d'arriver à croire à leur propre propagande et le côté qui existe d'enfants gâtés chez les Américains, de ne pas voir le résultat, de ne pas comprendre qu'on ne puisse ne pas les aimer. Et le résultat de cette politique, c'est que si ceux en Asie centrale fricotaient un petit peu avec l'Occident en se disant les Russes sont un peu trop présents, les Chinois également, en oubliant que ce seront toujours leurs voisins, les Américains sont bien loin, je pense qu'ils commencent à comprendre, ou certains ont déjà compris, que lorsque on serre la main
de l'aide amicale et fraternelle que proposent encore aujourd'hui d'ailleurs les États-Unis et au Kazakhstan, c'est assez amusant, ça finit toujours en coup d'État, ça finit toujours en révolution orange, ça finit toujours en massacre, ça finit toujours dans le chaos. Je ne vais pas vous citer tous les pays de ces dernières années. Donc ça, c'est une des conséquences qu'il va y avoir sur les pays d'Asie centrale, c'est de comprendre que leur voisin sera toujours la Russie, et que la Russie est présente, et que la Russie intervient dans le cadre des accords qui sont signés, dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective de l'OTCS, et que donc la Russie est un partenaire fiable, à la différence des États-Unis, qui ont toujours mis en place une politique de fourberie, pour éviter de parler trivialement. Et donc nous avons aujourd'hui ce résultat sur l'Asie centrale. Maintenant, par rapport au front occidental, nous avons, Luc Michel l'a indiqué, cette politique américaine de pousser jusque dans les retranchements la Russie, mais comme Poutine l'a indiqué, cette fois-ci nous sommes chez nous. Nos deux pieds sont chez nous, nous ne pouvons plus faire marche arrière, nous sommes à la porte de notre maison. Et ils essayent encore et encore évidemment de pousser, mais vous savez, aux États-Unis il y a deux tendances. Vous avez la tendance qui veut pas s'entendre mais neutraliser une entente avec la Russie pour arriver à une forme de neutralité afin que la Russie ne s'immisce pas dans la lutte qu'ils mènent contre la Chine. Mais en même temps, ils peuvent s'empêcher toujours de revenir à leurs fondamentaux de la politique néoconservatrice, à leur vision géopolitique de la chose, qui est le fondement de leur politique internationale, à savoir qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Et donc nous avons aujourd'hui toujours une politique, bien évidemment, de confrontation vis-à-vis de la Russie, d'encerclement, et ce qui se passe en Asie centrale, c'est un des éléments supplémentaires de cet affrontement. Et donc nous avons aujourd'hui, nous sommes dans une avec les négociations qui arrivent demain, nous avons une confrontation, chacun essaye de montrer ses muscles, mais les Américains, en montrant leurs muscles, franchissent des lignes rouges. Sauf que la Russie aujourd'hui, les lignes rouges, elle les a bien indiquées, et elle réagit aujourd'hui et d'une manière prompte. On a vu 24 heures pour même pas quelques heures suite à la demande du président du Kazakhstan, il y a une réponse, et même pas 48 heures après, il y avait déjà donc des soldats de l'OTSC qui étaient présents en soutien dans la lutte contre le terrorisme. Mais nous voyons bien, pour conclure votre question, nous voyons bien aujourd'hui, c'est encore plus visible, il n'y a que les médias de l'OTAN qui peuvent, avec leur propagande russophobe haineuse, s'auto-intoxiquer sur la chose. Mais la vraie communauté internationale, celle qui ne regarde pas les médias de Paris et de Washington, ou de Berlin, ou de Londres, voit bien une chose. Partout où s'immiscile soit l'armée américaine, soit les ONG américaines, soit les pays du bloc américain du NATO-Land, il n'y a comme conséquence toujours que la déstabilisation, le chaos, les coups d'État, et donc un avenir pas très pacifique, où ils mettent les pieds à chaque fois, il n'y a que le malheur des peuples. Et comme en Syrie, comme aujourd'hui en Afrique, comme aujourd'hui en Asie centrale, la Russie démontre que son action dans le cadre international est là dans la lutte contre le terrorisme, et comme axe géopolitique alternatif contre le bloc occidental. Nous avons bien aujourd'hui un bloc de l'Est, un nouveau bloc de l'Est, le bloc eurasien, qui lutte contre le terrorisme pour trouver une nouvelle stabilisation au niveau géopolitique. Et ce bloc aujourd'hui, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est votre pays, l'Iran. Et dans le cas précis, dans l'actualité actuelle, c'est bien la Russie qui démontre qu'elle est la tête de proue de ce bloc de l'Est, de ce nouveau bloc de l'Est, de ce bloc eurasiatique, contre les menées agressives et impérialistes du bloc occidental, du bloc américain.
Merci encore, M. Beurre. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, M. Beurre l'a rappelé, l'Occident a toujours poursuivi et poursuit aujourd'hui encore une politique de confrontation à l'égard de la Russie. Et bien sûr, aujourd'hui, il paraît que le conflit est transplanté en Asie centrale et plus précisément eu égard au récent développement au Kazakhstan. Qu'est-ce qui va sortir de ce nouveau terrain de confrontation?
Écoutez, la confrontation est devenue mondiale, puisqu'elle s'est également déplacée en Afrique, et elle s'est également déplacée en Amérique latine grâce à votre pays, au Venezuela, au Nicaragua, et également à Cuba, et également avec les Russes également. Mais ce que nous constatons, c'est que un cycle de 20 années de révolution de couleur made in USM vient de se terminer. Fabrice et moi, nous connaissons bien ces révolutions de couleurs puisque nous les combattions déjà lors de la première d'entre elles à l'été 2000, à Belgrade en Yougoslavie. À l'époque, c'était des rouleaux compresseurs qui emportaient tout. En Ukraine, en Géorgie, en Asie centrale, à Haïti, etc. Partout, rien ne pouvait s'opposer à ce rouleau compresseur. C'est terminé aujourd'hui. Le fait de déclencher une révolution de couleur et même parfois d'installer un gouvernement pro-américain ne garantit plus la prise en compte d'un pays. Les gouvernements pro-américains du Soudan issus d'une révolution de couleur initiée par Donald Trump en 2019 a été renversé il y a quelques semaines par des généraux liés à la Russie. On constate aujourd'hui au Kazakhstan que c'est raté complètement. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Donc maintenant, les Américains doivent s'habituer simplement, c'est que le bloc de l'Est est en capacité de combattre les révolutions de couleur et même de combattre les agressions de l'OTAN, notamment avec ce nouveau mode de faire la guerre que l'Iran en Liban a inventé en 2010 et la Russie en Ukraine, précisément en 2013, qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, elle combat la guerre classique de l'OTAN. Il y a une véritable panique d'ailleurs des pays de l'OTAN et des États-Unis pour cette guerre hybride qui est devenue un fonds de commerce de leurs stratèges, de leurs think tanks, de leurs universitaires. Ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, leurs adversaires ont les capacités de s'opposer à eux d'une façon décisive, comme le Kazakhstan est en train de le démontrer.
Donc, dans un sens plus large, Monsieur Michel, ce bloc de l'Est et de l'Ouest, ces confrontations ont tendance à se poursuivre éternellement, avec cette différence que seulement les terrains de jeu changent dans cette politique de confrontation entre la Russie et les États-Unis.
Les terrains de jeu ne changent pas tellement. Mmh. Vous savez, quand vous prenez le cas de l'Afrique, les Américains du think tank géopolitique Stratfor sont les premiers à la dire, la Russie est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Nous qui avons combattu l'OTAN dès les années 1980, nous avions déjà à l'époque cette confrontation qui existait, d'ailleurs, aux frontières dans l'Europe centrale, qui existait en mer Noire, qui existait en Méditerranée et qui existait en Amérique latine. Rappelons-nous quand même les portées des sandinistes au Nicaragua, etc. Et le blocus et les tentatives d'isoler Cuba. Donc je ne pense pas que les terrains se sont déplacés. Je pense au contraire qu'on est en train de revenir aux fondamentaux. Il y a aujourd'hui, comme lors de la première guerre froide, deux blocs militaires et géopolitiques. Le bloc américain occidental et le bloc de l'Est. Le bloc américain occidental, il est constitué de puissances maritimes, les États-Unis avec derrière elles la France et les Émiratis, l'Australie et le Japon. Et il y a un bloc de vieilles empires continentaux, la Russie, la Chine et l'Iran. Et ces deux blocs commencent, de par la volonté même des Américains, à être aussi de nature idéologique. Quelle est la ligne de vie des États-Unis? C'est la démocratie libérale, c'est l'économie libérale, c'est la volonté évidemment d'être le modèle de la démocratie. Quel est le modèle justement du bloc de l'Est? C'est le monde multipolaire, c'est le respect des souverainetés nationales et c'est une économie qui n'est pas aux mains des multinationales ni aux mains des financiers propres individuels, mais qui est une économie dirigée par l'État, que ce soit en Russie. Merci. Avec des firmes d'État issues de l'ère soviétique, que ce soit en Chine avec l'économie qui est dirigée par le Parti communiste chinois et en Iran. Actuellement, d'ailleurs, il y a eu il y a quelques jours le sommet pour la démocratie organisé par Biden aux États-Unis. Les Chinois ont répondu de façon spectaculaire cette fois-ci. Ils ont publié un livre blanc où ils posent 10 questions sur la soi-disant démocratie américaine. Mais surtout, ils opposent aujourd'hui leur modèle c'est-à-dire ce qu'ils appellent la démocratie de la dictature du prolétariat. Ils opposent leur modèle, ils opposent les voies russes, chinoises, iraniennes ou africaines en Guinée équatoriale, par exemple, vers la démocratie, au modèle américain du parlementarisme bourgeois. C'est le retour à la première guerre froide. C'est salutaire pour les peuples.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Fabrice Soir, expert pour l'ONGO depuis Moscou. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. La stabilité du Mali est aussi la stabilité de l'Algérie, selon le ministre malien des Affaires étrangères. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diouf, en visite à Alger, a indiqué que la stabilité du Mali est aussi la stabilité de l'Algérie. Au sortir d'une audience que lui a accordée le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie malienne a déclaré que l'Algérie, en tant que pays voisin, est plus que concernée par ce qui se passe au Mali. C'est dans ce cadre, a-t-il expliqué, que le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, nous a demandé de venir partager avec son frère aîné, Abdelmadjid Tebboune, les messages et les recommandations des assises nationales maliennes qui ont vocation à renforcer la démocratie au Mali, mais aussi la paix et la stabilité. Dans ce sens, M. Guita a ajouté que l'Algérie continue à jouer un rôle essentiel en tant que partenaire allié stratégique du Mali, estimant que l'Algérie est un pays qui a avec le Mali une intersolidarité pour nous accompagner à notre demande dans le cadre des efforts pour ramener la paix et la stabilité. Après des négociations menées à Alger entre le gouvernement malien et les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, les belligérants ont signé l'accord d'Alger visant à mettre fin à la guerre du Mali. La médiation internationale au Mali a jugé les recommandations des Assises nationales et de la Fondation ANR conformes à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation conclu en 2015 à l'occasion d'une réunion virtuelle tenue mercredi, a annoncé jeudi la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. Un communiqué de la MINUSMA qui fait partie de cette médiation a cité notamment les conclusions des ANR qui se sont tenues du 11 au 30 décembre dernier relatives à la mise en place d'un Sénat, l'opérationnalisation des transferts de compétences et de ressources financières et humaines de l'État vers les collectivités territoriales, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'accélération du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Pour les participants à cette réunion virtuelle, ces conclusions convergent avec l'accord de 2015 et ouvrent des perspectives encourageante quant à l'avancement du processus de paix. Les membres de cette médiation internationale, présidée par l'Algérie, ont souligné que l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation est essentielle pour la stabilisation durable du Mali et constitue une composante importante de l'entreprise d'ensemble de refondation de l'État malien. Le président kényan Uhuru Kenyatta a rencontré jeudi le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, qui avait été invité à visiter le Kenya. M. Kenyatta a demandé au ministre chinois des Affaires étrangères de transmettre ses sincères salutations au président Xi Jinping et a déclaré que la visite du ministre chinois au Kenya en ce début d'année attestait de la solidarité des relations entre le Kenya. De la solidité des relations entre le Kenya et la Chine. La Chine n'est pas seulement une amie sincère des Kenyans, elle est aussi un partenaire de développement avec qui le Kenya entretient d'étroites de relations de coopération, a-t-il affirmé, ajoutant que l'approfondissement de leurs échanges culturels et de leur coopération pragmatique dans divers domaines avait permis de créer un grand nombre d'emplois au Kenya, d'améliorer la vie du peuple et d'apporter des bénéfices tangibles à la population. M. Kenyatta a déclaré que les réalisations du Kenya en matière de développement n'auraient pas été possibles sans l'important soutien de la Chine, un soutien dont le gouvernement et le peuple kenyan sont éminemment conscients. Le ministre chinois des Affaires étrangères a pour sa part indiqué que sa visite visait à envoyer trois messages. Premièrement, la Chine se tiendra fermement aux côtés de l'Afrique pour l'aider à lutter contre la pandémie de COVID-19 et restera solidaire avec elle jusqu'à ce que le virus ait été complètement vaincu. Deuxièmement, la Chine est disposée à renforcer sa coopération globale avec le Kenya pour l'aider à consolider ses capacités d'autodéveloppement et à accélérer son industrialisation. Troisièmement, la Chine est prête à renforcer sa solidarité et sa coordination avec le Kenya dans les affaires internationales et multilatérales, à protéger conjointement les droits légitimes des deux pays et les intérêts communs des pays en développement et à préserver l'équité et la justice internationale. Burkina Faso, des dizaines de terroristes neutralisés en 6 jours. Des dizaines de terroristes ont été neutralisés entre le 28 décembre et le 2 janvier lors de diverses opérations militaires dans le nord et le nord-ouest du Burkina Faso, a annoncé lundi l'état-major des armées. Le 2 janvier, des détachements des forces de défense et de sécurité appuyés par l'armée de l'air ont conduit une action offensive qui a permis de démanteler une base terroriste dans la localité qui est de Tiebata, dans la région des Cascades, a indiqué l'état-major lors d'un point de la situation hebdomadaire de ces opérations antiterroristes. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés de l'armement, des moyens roulants, des moyens de communication, des vivres et du carburant, des produits prohibés et divers autres matériels ont été saisis ou détruits, précise l'armée qui assure n'avoir enregistré aucune perte. Le 1er janvier, les unités de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale de Gomboro avaient mis en échec l'attaque de leur base par des individus armés de toujours selon l'état-major qui affirme qu'un bilan actualisé fait état de 30 terroristes abattus et de 13 militaires blessés. L'agence de presse officielle algérienne a condamné ce qu'elle a qualifié de manœuvre et propagande de la Banque mondiale, l'accusant de publier des informations malveillantes et trompeuses sur la situation économique en Algérie. L'agence a indiqué récemment que la Banque mondiale, dans son dernier rapport, a attaqué de manière imprudente et gratuite l'Algérie en prédisant un tremblement de terre économique compte tenu de la fragilité du pays en termes d'exportation. Il a ajouté, cette institution a perdu toute sa crédibilité restante. Et la raison en est qu'elle a commencé à produire des rapports trompeurs qui répondent à un agenda qui sert des lobbies qui n'ont jamais cessé de mener des campagnes anti-algérienne visant à saper un État stable qui veille sur sa souveraineté politique et économique. Il est clair qu'il existe un complot visant à saper la stabilité du pays à travers ces rapports négatifs et néfastes qui dépendent d'indicateurs et d'arguments peu fiables publiés par des instigateurs et des partis inconnus sur les réseaux sociaux, sachant que ceux-ci sont financés et sponsorisé par des protagonistes qui n'hésitent pas à répandre leur haine contre l'Algérie dans le but de tromper l'opinion publique, a poursuivi l'agence algérienne. Selon cette dernière, le dernier rapport de la Banque mondiale contredit le dernier rapport du Fonds monétaire international qui a mis l'accent sur le développement et le progrès de l'économie de l'Algérie, sans parler qu'il contredit aussi les acquis obtenus par l'Algérie sur les plans politiques et social et économique. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.